Bonjour tout le monde. Merci de vous avoir déplacé si nombreux pour voir notre entretien avec M. Serge Bouchard. Donc, mon nom est Myriam Vincent, je suis libraire ici au CESAR. Je vais commencer par présenter M. Bouchard, même si je pense que tout le monde le connaît assez bien. Donc, bref présentation. Serge Bouchard est anthropologue, auteur, animateur de radio et conférencier. Il communique sur toutes les tribunes sa passion pour l'histoire des Autochtones, pour la Nordicité et pour l'Amérique francophone. Écrivain, Serge Bouchard est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont Le peuple rieur et Les yeux tristes de mon camion, pour lequel il a reçu le prix du gouverneur général en 2017. Donc, d'abord, ma première question en fait serait pourquoi avoir sélectionné le titre La lune cigarette de la crache noire, qui est un titre magnifique, pour ce livre-ci, qui est aussi en fait le titre d'un des textes qui se retrouvent dans le livre.
Bonjour. Moi aussi, je vais te dire merci d'être venu et d'être là. Pourquoi j'ai choisi ce titre? En fait, je procède toujours de la même façon. Ce sont des collections de textes. Alors, il y a 64 titres. Alors, je m'assois et j'ai le choix entre 64 titres pour choisir le titre principal, le titre du livre. J'aurais pu choisir, d'ailleurs, ce livre s'appelait jusqu'au tout dernier moment. Ça s'appelait Ma roche ronde. Et c'était le titre, Ma roche ronde. Il devait y avoir une roche. Mais il y avait cet autre titre qui me trottait dans la tête, qui existait, La lune cigarette, la crasse noire. Et finalement, un petit comité à la maison, ça a été celui-là qui a été retenu. C'est tout. Mais les autres, c'est pareil. C'était autant des mammouths laineux, c'était un texte qui s'appelait C'était autant des mammouths laineux. Les yeux tristes de mon camion, c'était un texte qui s'appelait Les yeux tristes de mon camion. Donc, le choix entre 120, 140, 160 titres à chaque fois.
Et ça lie aussi ce livre avec la thématique du camion, en fait, qui revient souvent dans vos textes. Bon, il y a les yeux tristes de mon camion, même l'autre des mammouths laineux, l'image, c'est un film de Winnie Pago. Une Westphalia, oh mon Dieu, je ne connais pas assez ça, je suis désolée.
Non, mais vraiment. Non. Je pas. J'ai entendu un pareil truc. Winnie Pago, c'est un autobus. Canadian Car, c'était les autobus de la ville de Montréal. Il y en avait 1000. Plus brun et beige de l'île de Montréal, dans toute une époque. Ouais, oui, il faut. L'autobus. Alors, ben oui, bien sûr, il n'y a pas de faute. Là, il n'y a certainement pas de faute de votre part. Mais regardez bien, c'est l'autobus.
Je vais mieux regarder la couverture maintenant, mais on voit l'importance que ça a pour vous et les connaissances que vous avez par rapport aux voitures. Dans les études de mon camion, vous parlez souvent de types précis, de ce que ça signifie pour vous. Donc, cette importance-là dans votre vie, d'où est-ce que ça vient?
Non, tu dis souvent des animaux ou des véhicules.
Ouais.
Bon. C'est deux symboliques différentes qui finissent peut-être par se rejoindre, j'en sais rien, parce que pour moi, un gros camion, dans mon temps, moi, c'est des animaux. C'est comme des animaux. On appelle ça de l'anthropomorphisme, évidemment, mais mon camion au Mac, des années 58. Parce que sur la couverture des étoiles de mon camion, c'est pas un Winnebago.
Non.
C'est un vrai camion Mac, 58. Et c'était mon camion pour vrai. Celui qui est sur la photo, c'est mon camion pour vrai, je dis pour vrai. Mais quand on le regarde comme il faut, qu'on s'y arrête, on voit qu'il y a des formes rondes, animales. On reconnaît, et dans les textes précisément, je fais référence au fait qu'un camion c'est vivant, c'est chaud en hiver, ça roule longtemps, ça a un comportement animal, ça a un visage. Les designs, on était dans une autre école, là, on est dans une librairie, mais si on était dans une grande école d'architecture et de design et de création, de forme, pour des objets usuels de notre vie. On s'apercevrait qu'il y a eu une grosse époque, une ancienne époque, qui était la mienne, qui n'existe plus du tout, où les designers faisaient des formes rondes, des formes humaines qui nous rapprochaient du véhicule. Aujourd'hui, personne ne pense à ça, pas une seconde, on est dans les boîtes carrées. Ben, regardez, vous avez l'application Montréal, ou à Longueuil, ou à Laval. L'autobus est carré, c'est une boîte carrée, c'est une boîte de sardines, sans faire de mauvais. C'est pas beau. Tu sais, tu peux pas dire l'autobus 28-831 de Montréal, il est beau. Je ne trouve pas l'idée. Et c'est pourtant du mobilier urbain. Il y en a 1500 sur la route. Tu l'as en pleine face, jour et nuit. Tu attends l'autobus, tu as l'autobus qui arrive. Puis tu aimerais ça qu'il soit beau. Il y a un visage, mais les anciens, les fameux Ouigalo, ils étaient vivants. Ils étaient... Bon, évidemment, vous entendez là, une parole totalement nostalgique et faite de réminiscence. C'est plutôt la parole d'un vieux qui parle de son temps, comme ça arrive souvent. Après, tous les vieux et vieilles font ça depuis toujours.
Mais justement, vous parlez aussi de votre enfance, en fait, et ça, je trouve que ça redore en fait l'époque des années 50. Moi, dans mes cours d'histoire, c'était la grande noirceur. Dans les années 60, c'est comme une époque très dépressive, la façon dont on en parlait. Et vous, lui redonnez vraiment beaucoup de valeur. On sent le bonheur que vous avez dans votre enfance. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez vraiment faire ou c'est juste parce que vous vouliez parler de votre enfance et ça arrive justement ces années-là?
Alors, je n'avais pas d'intention idéologique ou philosophique. C'est de la création pure. C'est une pulsion de création qui crée. Et je m'aperçois que la grande noirceur, il ne faisait pas si noir que ça. Ouais. Le soleil se levait pareil. Il se couchait. Il y avait une vie, il y avait une société. Il y avait des mères, il y avait des pères, il y avait des quartiers, des appartements. Et on avait des amis, on avait une vie. Or, cette vie, évidemment, est totalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans C'était au temps des mammouths laineux, le premier texte raconte, le texte s'appelle C'était au temps des mammouths laineux, mais pas pour rien. C'est que je parle à mes petits-enfants. Et j'explique à mes petits-enfants, sachez que votre grand-père, regardez-le, touchez-le, oubliez-le, il appartient à une époque que vous ne connaîtrez jamais, mais qui est entièrement et totalement différente de la vôtre. Les enfants, 8-9 ans, là, tu leur dis, quand on était jeune, bon, là c'est ta-ta-ta-ta-ta, puis tu descends ça, puis tu t'aperçois, c'est ahurissant, là. C'est comme si on était en 1600, là. C'est la différence entre moi et mes petits-enfants, c'est une différence de 20 siècles. Personne aujourd'hui, socialement parlant, entre nous, n'accepterait que ses enfants jouent sur une patinoire par moins 20, pas de casse, pas de gants. Que tu étais un petit gardien de but, puis oui, dehors, pas de masque. Qu'on serrait les rondelles dans le visage. Puis on saignait pas tout de suite, il fallait rentrer en dedans pour saigner. Parce qu'il faisait trop froid. On sortait de là, on sortait des patinoires, on jouait au hockey dehors, on sortait des patinoires, les orteils bleus mauves. Les oreilles bleues mauves, ça prenait une heure et demie à dégeler, tout seul avec sa main, dans des douleurs atroces, puis t'appelais pas ta mère. Tu disais même pas ça chez vous. Tout le monde était pareil, on avait toutes les oreilles gelées. Alors tout était différent. L'été, quand arrivait l'été, c'était différent. Aujourd'hui, vous voyez les couples, les jeunes couples, tout le monde fait ça maintenant, ton enfant. Qu'est-ce qu'il va faire pour des activités, pour une activité. Une fin de semaine, qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants, une activité, la liste des activités, il faut qu'ils s'inscrivent là, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ça. Nous autres, ils nous lâchaient tous au mois de juin, 23 juin, c'est un baptiste, on était en vacances. On sortait de l'école. On était en vacances jusqu'au fin août, début septembre, et ma mère et mon père ne nous ont jamais demandé ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, ce qu'on faisait pas. Tu avais juste tout ton temps, toi. C'était, tu sais, tu avais le quartier, tu avais ton vélo, tes amis, un bat de baseball, tu posais ton été, puis tu s'en parlais à personne. Bon, puis j'ai des souvenirs précis, là, des accidents qui nous arrivaient. Moi, j'ai fait des chutes en bicycle à Pointe-aux-Trembles. Tout plein de sang, là, des genoux, tout ça, du gravier rentré dans le feu. Tu rentres chez vous, tu vas te coucher. Oui. Ben, c'est vrai. Puis, aujourd'hui, un enfant se frappe moindrement qu'il y a un malaise, t'es rendu à l'hôpital. T'es scanné, t'as une résonance magnétique. Puis quand tu reviens à la maison, ben, il va y avoir un psychologue post-traumatique. mais c'est des mondes totalement différents. On n'avait aucun instrument, on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de téléphone, on ne téléphonait pas à nos amis, ça n'existait pas. Il y avait un téléphone dans la maison. Puis avant de pogner le téléphone, tu avais quatre enfants, puis la maman qui parle au téléphone à moitié de la journée, puis ma soeur qui pognait le téléphone, puis là, tu ne vas pas appeler tes amis. Tu vas voir tes amis. Tu ne vas pas appeler tes amis. Tu textes pas. Ben non, toi, il n'y a pas d'écran. Et il n'y a pas de consommation abusive, puis on n'a pas d'objet. On avait un hockey. Moi, je jouais au hockey, j'aimais ça. J'avais un hockey. Mais si je le pétais, là, la saison était finie. Ça fait que je cassais un os, là. C'est vrai quand même. Tu joues plus. Tu n'as pas de hockey. Puis on n'était pas équipés, mes joueurs de hockey. Aujourd'hui, faire jouer un jeune au hockey, il est mieux équipé que Harry Price. Ça coûte 0 000 $ en partant pour te faire un petit gardien de but. Nous autres, on n'en avait rien. Et je conclue en disant, mes petits-enfants, et nous étions heureux. Et j'ai un souvenir de bonheur. J'ai manqué de rien. On n'avait rien. C'était écrit dans le texte, d'ailleurs. On n'avait rien. On pouvait être, regarder autour de téléphone qu'on trouvait ça intéressant.
On avait l'imagination.
Puis, on était actifs sur le plan de l'imagination. Ben oui, forcément. Il y a une balle bleu, blanc, rouge. On jouait dans ce asphalte. Puis, des buts, c'était des blocs de glace. Puis, non, c'était. C'est pas, les enfants comprennent pas ça, mais c'était. J'ai réussi à les intéresser pareil. Mais quand ils sont partis, tout de suite, quand j'ai eu fini, ils étaient dans le nez sur le téléphone. Ils étaient dans le nez sur le téléphone, en train de regarder ça. Alors, c'est des mondes. On l'évalue pas, le monde, entre les gens qui ont 70 ans aujourd'hui et les jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui. On n'évalue pas le fossé. Il y avait déjà une grosse différence entre moi et mes parents. Il y avait déjà une énorme différence entre moi et mes parents. Mes parents, mon père n'avait jamais été à l'école. Mon père avait travaillé quand il était enfant. Il a commencé à travailler quand il était enfant. Puis moi, j'ai un doctorat. Tu regardes ton père. Ben, vous imaginez les sentiments de mon père quand il est venu à mon doctorat. Lui qui n'a pas été à l'école, il rentre à McGill dans les boiseries victoriennes, puis regarde son fils. Pour lui, c'était la vengeance du siècle. Ben, il se mangeait, là. Il était heureux. Il était heureux, cet homme-là. Son fils était docteur en anthropologie. Il disait au dépanneur. C'est mon fils, et il est docteur en anthropologie. Mais on voyait, c'était son bonheur. Donc, on avait un fossé d'éducation et de monde, mais pas comme aujourd'hui et moi par rapport à un petit-enfant. Ça, c'est colossal. Colossal.
Vous portez aussi un regard sur plusieurs choses qui peuvent paraître banales à, disons, l'humain moyen d'aujourd'hui. Un regard empreint de beaucoup de poésie, par exemple, justement, un camion, une épinette sur le bord de lac, les banlieues, vous parlez beaucoup de Pointe-aux-Trembles, comme ça. D'où est-ce que ça vous vient, ce regard poétique-là? Est-ce que c'est un effort que vous faites ou ça vous vient naturellement?
Non, je n'ai jamais consulté pour ça. Non, j'en sais rien. Il y a une sorte de cohérence. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le petit garçon que j'étais, tout simplement. Je sais que je retrouve chez moi le petit garçon que j'étais. Je le retrouve à 72 ans, c'est quand même intéressant. Il s'est pas perdu, il s'est pas garé, il n'est pas mort. Tu sais, j'ai pas d'amertume, j'ai pas rien, j'étais poète, je sais pas ce que c'est. En tout cas, jeune, j'étais poète. Je ne savais pas, bien sûr, mais j'avais un regard poétique sur le monde. Je l'ai gardé et j'ai appris à le communiquer par écrit et en parlant, en racontant et par écrit. Et c'est ce que je fais maintenant, aujourd'hui. Ayant un regard poétique, rien ne m'a échappé qui pouvait être sublimé. Je vais vous donner un exemple, ici, à mon... Pour faire une référence, moi, je suis élevé à Pointe-aux-Trembles. Toute ma jeunesse se passe à Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. Et à cette époque, ce quartier, il y a 7 raffineries de pétrole. Une raffinerie de pétrole, ça se remarque. Hier, j'étais à Québec, puis on voyait à Lévis la raffinerie Ultramar. Bon, je pourrais, ben, oui, à Lévis.
Valero.
Hein?
Valero.
Oui. Merci. C'est illuminé, c'est plein de lumière. Le soir, de l'autre côté du fleuve, c'est comme si c'est une galaxie. On en avait sept. Alors, c'est sept cheminées qui rejettent du soufre et de l'arsenic. On est élevé dans l'arsenic et dans le soufre. Le ciel était jaune à l'année. Ça sentait les œufs pourris. On aimait ça. La nostalgie olfactive est la plus grande chez l'humain. Les odeurs qu'on retient le plus. Alors, vous imaginez qu'encore aujourd'hui, quand je passe à Pointe-aux-Trembles, à chaque fois, j'essaie de renifler ma jeunesse. L'odeur de ma jeunesse. Il y avait sept raffineries de pétrole. Il y avait la Canada Ciment, Noranda Copper. Donc, on vivait dans un paysage formidable et surréaliste. À nul autre pareil sur Terre. Le seul endroit au monde, seul endroit en Amérique du Nord où on pouvait se comparer, c'était à Pittsburgh, les aciéries de Pittsburgh. Alors, c'était d'une laideur incommensurable. C'est pareil. Il faut imaginer, parce qu'il n'y a personne qui a pensé à la beauté là-dedans. Mais tu finis par trouver une beauté dans le tuyau rouillé, dans les ceci, les cela. Les gens, excusez. Les gens, ils travaillaient au raffinerie. Alors, c'était des pipefitters, c'était des plombiers, c'était des électriciens, c'était des ouvriers des raffineries qui travaillaient dans la tuyauterie. Et des camionneurs. Des camionneurs par milliers, parce que tout ce pétrole arrivait, repartait, ça arrivait des États-Unis, ça arrivait de partout. C'était des camions-citernes. Donc, on a été élevés dans les camions-citernes. Donc, très jeune, on a appris à faire attention quand un camion tournait pour son angle. On ne pouvait pas se faire écraser, parce que les enfants se faisaient écraser par les camions. Alors, on négociait les camions, on négociait la pollution, on jouait là-dedans, on était heureux. On a perdu. Il y en a qui sont morts noyés dans les carrières des raffineries, dans les anciennes carrières. Il y en a qui ont été écrasés par des camions. Il y en a qui ont tombé dans des trous. Et je me souviens, à cette époque, le fleuve était épais et brun. Le fleuve Saint-Laurent, à partir de Pointe-aux-Trembles, il y avait des gros tuyaux qui rejetaient du pétrole brut, direct, dedans, 24 heures par jour. Au niveau de la rue Marien, ça serait un site historique, on pourrait y aller aujourd'hui. Rue Marien, le fleuve, et on rejetait le fleuve, dans le fleuve. Alors, le fleuve était brun, pétrole, comme s'il y avait une catastrophe écologique permanente. Alors, et on se baignait à la place Bissonnette. Et on se baignait l'été. Alors, vous pouvez imaginer ce monde dans lequel le mot écologie n'existe pas. Le mot environnement n'existe pas, le mot santé publique même n'existe pas. Le mot paysage esthétique, n'importe quoi, tu bâtis des bungalows, tu te sacs de tout, tout ça est dans le... J'ai été élevé là-dedans, puis là, il fallait que je m'invente un imaginaire où les raffineries, c'était beau, où le fleuve, quand même, était extraordinaire, parce que j'essayais de l'imaginer pas brun. Avec de l'eau pure, à l'époque de Radisson, où ils pouvaient prendre le boire. Puis en canot, ils arrêtaient de ramer, puis ils se prenaient un peu d'eau. Un fleuve, Saint-Laurent, boire de l'eau. Et je me plissais les yeux, puis j'essayais d'éliminer tout ce qui était laid autour, ça veut dire la totalité du spectacle. Et j'essayais d'imaginer des Indiens qui passaient, des missionnaires, des canots. Je suis évadé dans le passé. Je me suis évadé, donc j'ai imaginé l'île de Montréal sauvage. Pointe-aux-Trembles sauvage, à la rencontre de la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles, la rivière Assomption, avec les îles, un des plus beaux endroits de l'île de Montréal. Probablement un des plus beaux endroits de l'île de Montréal. Plus tard, j'ai lu que les Jésuites écrivent, en arrivant en canot de Québec sur l'île de Montréal, ils disent que c'est le plus bel endroit d'Amérique. Qui connaissent eux, parce qu'ils haïssaient Québec pour mourir, parce qu'il faisait trop froid. À Trois-Rivières, ils commençaient à être heureux. Puis à Montréal, c'est merveilleux, ça ressemble à l'Europe. Alors, eux autres, ils voyaient des prairies naturelles, ils voyaient des arbres solitaires, ils voyaient des foins. Puis c'était le bout de l'île de Montréal, le plus bel endroit de Montréal. Alors, imaginez-vous le paradoxe. Le développement économique a fait en sorte que l'endroit le plus laid, le plus méprisé, encore aujourd'hui, c'est Pointe-aux-Trembles. On va construire 150 trains à l'ouest de Montréal, jamais dans l'Est. Il n'y a pas un train qui va dans l'Est. Il n'y a pas un service qui va dans l'Est. Il n'y a rien qui va dans l'Est. Et c'est le plus bel endroit. Puis c'est là que j'ai été élevé. Alors moi, mon travail, c'est de sublimer l'Est de Montréal pour le rendre universel, pour qu'on puisse lire à Moscou que le plus bel endroit pour être élevé, c'est à Pointe-aux-Trembles.
Et vous avez une phrase aussi que j'adore dans ce livre, parce que bon, ce livre s'inscrit dans la vie de plusieurs autres, dont les écrits d'un camion. Vous parlez beaucoup d'épisodes de votre vie, en fait. Et dans ce livre, vous dites « Les autobiographies sont les plus grandes œuvres de fiction qui soient. » Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Il y a un vieux proverbe russe qui dit, ben je vais vous donner deux proverbes, un russe ancien qui dit « Qui parle, comment ?» C'est bon pour le parlement, mais... « Qui parle, ment ?» À partir du moment où tu parles, tu vas mentir, c'est sûr. Et il y a un proverbe aztèque qui dit « Nulle parole n'est véridique. » La parole, comme on dit, n'est pas faite pour dire le vrai. On nous a élevés dans l'idée qu'il faut dire le vrai. C'est clair. Car d'abord, c'est impossible. Puis ensuite, c'est d'une platitude inouïe. Il faut que les choses soient rebondissantes. Et pour qu'elles soient rebondissantes, il faut les fabuler. Et pour les fabuler, ben, il faut arrondir les coins. Et pour arrondir les coins, tu es en train de mentir. Et puis, toute autobiographie, en fait, est une sorte de mensonge. Moi, j'ai beaucoup parlé de ma mère. Bon, j'en parlerai pas maintenant, mais... J'ai beaucoup parlé de ma mère, mais c'est pas, c'est vrai, tout est vrai, mais pas vraiment. J'arrive, pour ceux qui connaissent, j'arrive de Québec, j'ai vu la pièce, j'étais à Québec pour voir la pièce au Diamant de Robert Lepage, 887. Ça m'a jeté par terre. Mais pour la raison, c'est pas la raison de ce qu'on discute pleinement. C'est-à-dire que le page sublime sa rue. Pas compliqué. Il prend la rue, c'est la rue Murray à Québec. Puis, puis il prend son édifice, il met son édifice en scène parce que c'est un génie, il réussit à faire ça. Un bloc appartement, il met ça en scène. Et là, il va parler pendant 2 heures. Et c'est son père. Puis là, il y a beaucoup d'affinités. J'aimerais ça qu'on en parle là-dessus. Parce que moi, mon père, c'est chauffeur de taxi. Puis lui, il parle de son père, chauffeur de taxi. Puis ils n'ont pas d'argent, puis ils sont élevés. Puis, donc, son quartier devient universel. Cette pièce peut faire le tour du monde. C'est une rue, c'est un bloc appartement, puis c'est des gens. C'est rien de compliqué. Puis lui, il va rendre ça sublime. Et c'est ça que. Moi-même, j'essaie de faire, là, je ne vais pas mettre dans la lignée de page, mais dans mes livres, j'essaie de sublimer l'ordinaire de ma vie et l'ordinaire de la vie de tout le monde. C'est-à-dire des choses qu'on ne remarque pas, mais qui nous habitent, et qui nous créent, qui nous habitent. Puis, tu sais, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des autobus, moi, si j'étais conseiller à STM, je leur dirais, faites attention, là, mettez ça dans la rue. Il y a des gens qui conduisent ça, alors tu sais, ça se peut-tu qu'on soit content de conduire un autobus qui a de l'allure, et que, de monter dans un autobus qui a de l'allure, et etc. Et tous ces morceaux composent notre identité. Et quand j'étais jeune, non seulement j'étais poète, mais j'étais très orgueilleux. Et j'ai toujours l'orgueil de Pointe-aux-Trembles, l'orgueil de moi-même, l'orgueil de mon nom, l'orgueil de mon père, l'orgueil du peuple. Aussi, l'orgueil des Canadiens français quand j'étais jeune, parce que je suis assez vieux pour savoir que j'ai vu la naissance du mot québécois, qui n'existait pas. On était des Canadiens français catholiques. Alors, j'ai tout vu, ces choses-là, dans l'orgueil de moi-même. Et puis, je suis resté accroché là-dessus. Ça, le piton, il ne sait pas. Voilà.
Vous avez aussi un autre espèce de courant dans vos œuvres qui est de faire connaître en fait des figures oubliées de notre histoire. Donc vous avez les fascinants ouvrages, ils ont couru l'Amérique et elles ont fait l'Amérique, ainsi que le peuple hier, que vous avez aussi fait d'ailleurs en collaboration avec votre conjoint, Marie-Christine Évêque. Et donc, quand est-ce que vous avez commencé à vouloir faire connaître donc, ces figures méconnues très importantes, mais dont on a complètement oublié les noms aujourd'hui?
Tout est cohérent dans cette affaire. Je n'ai pas aimé au primaire, et là on parle des années 50, là, c'est donc loin dans le temps, j'ai pas aimé les cours d'histoire du Canada. Je trouvais que les cours d'histoire du Canada étaient inadéquats. D'abord, c'était pour mon orgueil, c'était pas bon. Les Jésuites m'impressionnaient pas. Ni leur mort, ni leur martyre. Il n'y a rien qui m'impressionnait dans l'histoire du Canada. Et là, quand on parle d'un mensonge, c'était vraiment un mensonge. Et il y avait les grands absents, les Indiens. Il y avait des Indiens, mais les Indiens qui étaient là, c'était des caricatures aux Indiens. Qui ont pollué des générations qui ont cru vraiment que les Indiens, c'était ça. C'est-à-dire la version du clergé, la version du clergé catholique qui écrit les histoires, qui écrivait l'histoire qu'on apprenait. Et là, je parle du chanoine Loup et autres. Il nous expliquait que les Français avaient survécu à la sauvagerie d'Indiens sauvages. Donc, c'est un exploit. D'un grand exploit d'avoir survécu à des sauvages aussi sauvages. Maintenant, on avait inventé un sauvage d'archétypal, le barbare des barbares sur la planète Terre, l'Iroquois. Et on nous peignait l'Iroquois. On nous le dessinait d'ailleurs dans nos livres, il était dessiné avec la coupe effrayante. Une coupe effrayante. Il était généralement nu, avec un petit cache-sexe, là, et tout. Même en hiver. Et ce qu'ils faisaient, les Iroquois, dans la vie, c'est qu'ils tuaient des catholiques. J'avais le feu aux yeux. Bon, ils ont le massacre de la Chine, la mort des Jésuites. On insistait beaucoup là-dessus. Et on mettait en face d'autres Indiens, des Indiens amis des Français. Les Algonquins, les Hurons, à la limite des Montagnais. C'était ça la cartographie des Indiens du Québec. Et ces Indiens pro-français étaient des poules mouillées, des perdants, des losers, des Indiens dos courbés qui fuyaient toujours devant l'Iroquois, terrorisés par l'Iroquois. C'était des Indiens qui nous représentaient avec des nattes. Ils avaient des cheveux graisseux avec des nattes. Puis c'était des imbéciles, finalement. De parfaits imbéciles. Qui fuyaient toujours lorsque l'Iroquois se montrait, tandis que le français restait. Le héros français restant sur le front, les Indiens fuyant, les Iroquois attaquant, en l'occurrence, c'était le modèle. J'avais beau être un enfant, j'étais pas capable de me rentrer ça dans la tête. D'autant plus qu'il y avait 10 000 Iroquois qui vivaient pour de vrai près de Montréal, à Kanawaki, Kaptamonwaga, qu'on appelait à l'époque. T'as 10 000 Iroquois qui vivent là, puis tu montres à tous les enfants que c'est les plus sauvages de la planète. Quand on y allait le dimanche, là, pour aller voir Catherine de Kakuta, hey, on se cachait dans la voiture. S'il en envoyait un, il a peur de poignet. Ça, c'est ma première indignation quand j'étais jeune. Puis j'étais un enfant pourtant. Je voulais des Indiens. Et je voulais des Indiens nobles, beaux, participant à l'histoire. J'ai 10 ans. L'âge de Bart Simpson. Alors, ça, c'est ma première indignation. J'ai toujours ensuite travaillé, je suis devenu anthropologue, j'ai toujours travaillé sur l'idée que l'histoire nous cachait quelque chose. Et pour finalement, moi, j'ai eu ma vie, j'ai eu ma carrière, j'ai travaillé à Radio-Canada, ça fait longtemps que je travaille à Radio-Canada, ça fait 28 ans que j'étais à Radio-Canada. Et à un moment donné, je propose à la direction un projet. Pour un projet. Les remarquables oubliés. Pour la radio. C'est pour la radio. Et puis, évidemment, les patrons. Tu sais, on vit dans un monde où le patron dit ben, regarde, tu vas te tuer à faire ça. Et les gens, ils vont te trouver plate. Là. Hey, c'est 53 minutes. Tu parles pendant 53 minutes. Là. À la radio, personne qui fait ça, raconter une histoire. Tu commences, là, il est 8 heures, à 8 heures, 4, après les nouvelles, tu commences, tu t'en vas jusqu'à 9 heures. Tu sais, c'est un suicide. Puis le projet ici, en plus, je vais raconter l'histoire. Puis en plus, il va y avoir une tribune téléphonique après, d'une heure. Là, tu t'es suicidé à la première heure, t'es mort à la deuxième, c'est sûr. Tu n'auras pas un appel. Pour vrai. On a fait des pilotes. On a fait 5 missions pilotes qui ont mis sur les tablettes. Ils n'ont jamais l'intention de diffuser. Jusqu'au jour où il y a eu une crise à la radio, une mission qui s'est plantée, il y a eu un trou dans la grille, j'utilise les expressions du métier, il y a un trou dans la grille, puis là, urgence, urgence, pompier, Serge, as-tu des émissions, tu sais, tes fameuses émissions sur la tablette, on va y passer. Ils ont passé en urgence pour boucher un trou. C'est l'histoire. Puis c'était le premier soir, le lundi, on a passé, j'étais fébrile, là, puis c'était live, là, c'était pas, c'est-à-dire c'était enregistré, mais c'était, moi j'étais en studio quand on les faisait, là, puisqu'il y avait une tribune téléphonique. On a raconté l'histoire de Marie Iowa Dorion en premier, c'était la première. Je vais vous raconter l'histoire de Marie Iowa Dorion. Et puis là, ça passe, cette histoire-là. Ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. C'est une femme Sioux, une Indienne Sioux de la nation Iowa. Première chose, information qui rentre, l'État américain d'Iowa, c'est le nom d'une nation autochtone. Elle, c'était Iowa. Et Iowa, que les Américains prononcent Iowa, c'était prononcé en français d'abord. C'était une Iowaise. C'était donc c'est un missionnaire catholique francophone qui l'a baptisé Marie, parce qu'il a prié toutes les Indiennes Marie. Iowaise, Marie l'Iowaise. Elle a marié un monsieur Dorion. Elle est donc cherchée, Dorion. Alors là, tu fais des recherches, tu trouves que Dorion, c'est le fils métis, 50% indien, 50% canadien-français, d'un dénommé Joseph Dorion de Montréal. Ah ben, maudit. Puis là, le maudit Dorion, il est parti en 1770. C'est en allé dans le cœur des États-Unis sauvages et non cartographiés et non américaines et non anglophones. Puis là, il a marié une autochtone, Sioux, il a eu des enfants, qui s'appelle Dorion, l'enfant qui s'appelle Dorion, Marie l'Iowaise, et ensemble, ils vont avoir des péripéties extraordinaires, des aventures extraordinaires, ils vont traverser l'Amérique, elle va perdre son mari, en fait, toute l'expédition qu'elle accompagne avec ses enfants meurt, elle va se retrouver toute seule avec ses enfants dans les rocheuses en hiver, avec un cheval, qu'elle va manger. Puis elle va traverser les rocheuses sans mourir et en sauvant ses enfants. Puis elle va arriver de l'autre côté. Ça s'appelle l'Oregon. Et en Oregon, elle va trouver des Canadiens français. Parce que les remarquables oubliés une histoire. Là, vous m'avez. vous m'avez fait partir. Les remarquables oubliés, une histoire en amène une autre. Elle est rendue de l'autre côté, et là, tu t'aperçois que. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'Oregon? C'est juste des Canadiens français qui sont là. Avoir marié un autre Canadien français, parce qu'elle n'aimait pas ça, marier les Indiens, elle voulait des Canadiens français. Elle a eu 3 maris Canadiens français en Oregon. Elle a eu une grande descendance. C'est une grande héroïne de l'histoire de l'Amérique, somme toute. Comme Sacagawea, qui était la femme de Toussaint Charbonneau, qui a eu Jean-Baptiste Charbonneau. Là, tu racontes l'histoire de Jean-Baptiste Charbonneau, puis tu racontes l'histoire de Sacagawea. Là, tu rencontres que Étienne Grosbeau, puis tu t'aperçois que le plus grand homme des montagnes de l'histoire des États-Unis, de l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est Étienne Grosbeau, c'est un gars de Chambly. Étienne Grosbeau, c'est un personnage quand tu pourrais tourner 2 films de fiction, 4 documentaires sur ce gars-là. Il a tout découvert, les montagnes, les pistes dans les montagnes. Il parlait plusieurs langues autochtones. Il était un personnage fabuleux. Qui est mort à Saint-Louis, au Missouri, qui était une ville francophone et canadienne-française, en plus. Saint-Louis, au Missouri. On peut-tu imaginer ça? dans les remarquables oubliés, faisant ceci, on est rendu à cela, on a fait cela, on a fini cela. Alors, on constate plusieurs choses en faisant ça. On en a fait à la fin, à la radio, 74 personnages à la radio. D'abord, les tribunes téléphoniques fonctionnaient. C'est le feu. Les gens téléphonaient. Qu'est-ce que vous venez de raconter là? C'est quoi ça? Ou des fois, c'était pire. Tu racontes l'histoire du fondateur de Willow Bunch en Saskatchewan, ce qui est la Talle des Saules, M. Légaré de Saint-Michel-des-Saints, qui était le meilleur ami de Sitting Bull. Puis qui a accueilli Sitting Bull quand Sitting Bull s'est exilé des États-Unis pour sauver sa peau avec ses 2000 guerriers. On fait l'histoire. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sitting Bull, Légaré, Willow Bunch, Talle des Saules, tout ça, c'est une histoire fantastique. Qu'est-ce qui téléphone l'heure suivante en provenance de Saskatchewan? L'arrière-petit-fils de Légaré. C'est-tu des beaux moments de radio, ça? L'arrière-petit-fils de Légaré qui nous parle à la radio en direct, puis qui nous dit on a ceci, on a cela, on a des papiers, puis c'est vrai que c'est arrivé. Mais la personne qui en parle, le Canada anglais l'a complètement oublié, Ottawa l'a complètement oublié, parce qu'ils sont encore en train de réclamer de l'argent qu'ils ont dépensé pour protéger et faire vivre les guerriers de Sitting Bull. Quelle aventure! Elle est remarquable, Guy. On a eu des codes d'écoute, on a eu des histoires. On constate que l'histoire de tous ces gens-là n'ont pas été racontée. L'histoire des Canadiens français qui ont été aux États-Unis. Puis là, on parle de Saint-Louis, on peut parler du Minnesota, on peut parler du Nouveau-Mexique, on peut parler surtout de la Californie. C'est là qu'on a fait le premier maire de Los Angeles, Daniel Archesseau, pour un club de Montréal, le deuxième maire, Prudent Baudry, le frère de Baudry, de la rue Baudry à Montréal, qui était maire de Montréal. Il y a eu un maire de Montréal qui s'appelait Baudry, l'autre Baudry était maire de Los Angeles, en même temps. Et donc, on voit que les francophones étaient partout. Partout. Du Yukon jusqu'en Californie, de Louisiane sûrement jusqu'au Grand Lac. Et là, on aperçoit que s'ils sont partout, c'est à cause des Indiens. Ils se marient avec les Amérindiennes. Ils déclenchent des lignées métisses. Des grandes lignées métisses, dont certaines sont spectaculaires, parce qu'ils se rencontrent encore aujourd'hui sur Facebook, on les voit, ils se donnent des dates, des lieux, puis ils se réunissent. Ils ont des noms tellement beaux, là. Les métisses, c'est comme les Haïtiens ont des beaux noms. Les Haïtiens, ça a toujours des beaux noms. C'est de la poésie. Dans la ville canadienne, ici, comment ça s'appelle, c'est sûr qu'il faut avoir un poème en réponse. Mais la même chose pour les métis nord-américains, franco-indiens. Ils s'appellent la boucane. Ils s'appellent la fournaise. Ils s'appellent la déroute. Ils s'appellent la bouteille. C'est tellement beau, tu sais, la boucane, il se marie avec la fournaise. Pour vrai, dans la région du lac Labiche. Alors, tout l'Ouest canadien a été francophone métis. C'est ça que le Manitoba a tué là, quand ils ont pendu Riel. C'est toute cette mémoire qu'ils ont tué. Ils ont voulu enfouir. L'Amérique n'a pas été francophone, elle n'a pas été métisse. Ça n'existe pas, les métisses. D'ailleurs, vous entendez encore des gens qui disent ça aujourd'hui. Ça n'existe pas, rien donc. Maintenant, ce n'est que ça. L'autre constat en faisant 74 personnages, c'est que l'histoire exclut les femmes. C'est pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Il a posé la question, c'était répondre. Les femmes ne sont pas dans l'histoire. Alors nous autres, on faisait des femmes. Puis, Harry Iowa Dorion, mais il y en a plein d'autres. Les premières, des grands personnages féminins, mais dans des rôles inattendus. Des femmes exploratrices, des femmes entrepreneurs. La première qui a traversé les rocheuses, des chilcoutes passes pour aller à Dawson, la ruée vers l'or. C'est une fille du lac Saint-Jean. Elle a ouvert des magasins, elle est devenue immensément riche. Il faut raconter ces histoires-là. À Montréal, l'histoire de Marie Brazo, qui possédait tous les bordels, toutes les tavernes, puis qui s'occupait de ça, qui est devenue aussi riche. Une très belle histoire, d'ailleurs. Donc, des entrepreneurs, des femmes d'affaires, des femmes exploratrices, même une femme guerrière, morte au combat. C'est fun, ça. T'as 15 modèles. D'habitude, quand tu parles des femmes et la Nouvelle-France, tu vas parler des sœurs. Elles font une école, elles s'appellent un job, puis elles ont une autre sœur d'un autre couvent, elles font un couvent, puis c'est toutes des saintes. C'est pas une histoire, Mais quand tu rencontres des femmes comme Ariane Gaboury, la première femme qui était dans l'Ouest canadien, non-indienne, par amour, qui a suivi son homme par amour, puis qui s'est fait trahir par son homme, qui avait déjà une femme indienne là-bas, puis des enfants indiens, un métis, Quelle belle histoire, un broglio. Alors, on a fait ça, puis c'est... Quand la série radiophonique a été terminée, je conclue là-dessus, parce que j'en ai encore des émotions. Ça a été terminé, les gens n'ont pas arrêté de dire c'était triste, mais moi aussi je trouvais ça triste, on a trouvé ça triste, j'ai pas arrêté de, par ma volonté, c'était une décision corporative. Et puis, on a décidé d'écrire les remarquables oubliés. Là, ils avaient été racontés à la radio, mais là, il fallait les écrire. Mais entre la radio et l'écriture, hey, oh, il y a un pas, là. On passe de la radio à la littérature. Et c'est ma blonde, qui est une femme de lettres, qui se trouve être ma blonde. Là, on vit ensemble, là, on s'aime. Mais en plus, on travaille ensemble. Parce qu'on aime la littérature, puis c'est une femme de lettres. Elle me dit, je vais l'écrire avec toi. Parce que moi, je lui dis, non, je suis découragé, j'écris pas ça. On vient de les faire, là, je viens de les diffuser. C'est pas vrai que je vais écrire ça. Elle dit, je vais l'écrire avec toi. À une condition. C'est que le premier tome, parce qu'on savait qu'il y avait trois tomes, le premier tome, à une condition, le premier tome, ça va être les femmes. Alors, c'est elle qui dit les femmes d'abord. On a fait, elles ont fait l'Amérique. Que je vous recommande, si vous ne connaissez pas.
Absolument captivant, qui est très bien écrit, c'est justement.
Oui, ben ça, oui, c'est ça. On était préoccupés de bien l'écrire. Alors, c'est un sujet, c'est 15 femmes. On a suivi avec les coureurs de bois, les acteurs, les coureurs de bois, les hommes. Ils ont couru l'Amérique, puis là, on devrait produire et arriver au troisième tome, qui est Ils ont perdu l'Amérique. 15 Amérindiens qui ont changé le cours de l'histoire de l'Amérique. Voilà.
J'ai encore plein d'autres questions, mais je voulais laisser la chance au public si jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions qui voudraient. Oui, monsieur.
Vous dites que vous essayez dans ça de retrouver votre passé d'enfant tout en étant poétique, mais qu'en est-il de votre formation d'anthropologue? Est-ce que vous avez été obligé de passer par un processus de formation qui peut être où il y a dû avoir des exigences un peu rigoureuses et scientifiques, pas uniquement poétiques? Comment vous réussissez à. En quoi cela vous influence et comment vous réussissez à composer avec le côté purement poétique enfantin et votre parcours de toute façon anthropologique aussi?
J'ai voulu jeune devenir anthropologue parce que l'anthropologie représentait un univers que je ne connaissais pas mais que je soupçonnais qui était une sorte de profondeur du monde, des couleurs du monde, la diversité du monde, la diversité des situations, etc. etc. Donc, j'ai été très sérieusement étudié l'anthropologie. J'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait un doctorat. Et là, j'ai découvert des univers pas vrais, ce que je soupçonnais. Le lien, c'est que ma thèse de maîtrise, ça portait sur le savoir des Innus. Donc, j'ai fait du terrain parmi les Innus, j'ai passé du temps, on parle d'années, là, à interviewer les vieux et les vieilles, comme si c'était, parce qu'on me l'avait dit, c'était des gens, les vieux et les vieilles, c'était des encyclopédies, c'était des chasseurs. Donc, c'était des gens qui n'avaient pas vécu dans les réserves indiennes, qui avaient vécu sur le territoire. Donc, ils connaissaient tous les animaux, ils connaissaient toutes les plantes, ils connaissaient toute la géographie, tous les lacs, en fait... Ces encyclopédies ambulantes, on voulait vérifier ça. Alors, je l'ai vérifié avec de jeunes Innus de mon âge, qui sont devenus mes amis. Et on était avec des vieux et des vieilles. On faisait, mais qu'est-ce que je trouve? Parce que je vais résumer, je vais vous parler de toute ma vie anthropologique. Qu'est-ce que je trouve? Des poètes. Ce sont tous et toutes des poètes. Ils te parlent des oiseaux, ils te parlent ils ont une relation épaisse avec la nature, c'est-à-dire profonde avec la nature. Quand tu dis à un vieux de 90 ans, veux-tu me parler du caribou? Ben là, il va commencer à 8 heures le matin, mais à 4 heures, il est encore en train de parler. Là. Puis là, il va te parler du caribou dans sa morphologie, il va te parler du caribou dans ses rêves, il va te parler du caribou dans la mythologie, il va te parler du caribou sur tous ses angles. Alors, c'est le savant, les savantes, mais qui alliait la raison, le pragmatisme, parce que c'était des gens très pragmatiques, ils vivaient comme ça, il fallait bien qu'ils sachent fabriquer les choses, réparer les choses et tuer les animaux, et les repérer. Mais il transposait tout ça dans un univers mythique et poétique d'une grande, grande beauté. Donc j'étais bien servi. J'étais bien servi. Et quand j'ai fait mon doctorat à l'Université McGill, mon sujet de thèse était révolutionnaire, délinquant et risqué. Personne, aucun professeur, voulait me diriger. Sauf un. Il s'appelait Bernard Arcan. Il arrivait d'Europe. Et il a pris le risque d'être mon directeur de thèse, parce que ma thèse, c'était « Je veux étudier le mode de vie et la culture des camionneurs au long cours dans le nord du Canada. Ben, » Terche, pour un prof, là, en anthropologie, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je retrouve chez les camionneurs? Parce que quand je suis arrivé chez les camionneurs, je devais avoir des autorités, des compagnies, des assurances, des choses comme ça. J'étais un étudiant en doctorat, puis... C'est sûr, je vais être dans les camions. Pendant 2 ans, j'étais dans les camions. Alors, il fallait des autorisations. Alors, les premiers gérants de flotte que j'ai rencontrés, qui ne sont pas sur la route, qui ne sont pas camionneurs, qui sont juste des gestionnaires, ils m'ont dit, mais t'es fou. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à trouver. Ces gens-là, pour être camionneur, il faut que tu sois fou. Si tu n'es pas fou, tu vas le devenir après un an. Donc, c'est le stéréotype général. Parce que vous savez, les stéréotypes, les préjugés, ça va dans tous les sens. Ça peut aller pour les cultures, ça peut aller pour la couleur de la peau, ça peut aller pour... Mais ça peut aller aussi entre nous pour les métiers. Pour être éboueur, là, ça ne prend pas un doctorat. Ça se peut que tu trouves un docteur en philosophie éboueur. Pour être chauffeur de troc, il y a n'importe qui peut chauffer. Gros bras, petite tête. Il y a un préjugé terrible. Moi, j'arrive là-dedans. Le gars m'a dit qu'il n'avait rien trouvé. J'ai été 2 ans dans un camion, dans le nord du Québec et le nord d'Ontario. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'avais 35 informateurs. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des poètes, des gens. Il y en avait qui étaient cultivés. Il y en avait qui étaient super intelligents. Il y avait des débiles, mais tu sais... Chez les avocats, c'est pareil. Mais t'as la même proportion de débiles dans à peu près tout. Donc, le camionneur, ça échappe pas à ça. Mais j'ai trouvé des gens formidables. Des gens formidables qui racontaient des histoires. Puis là, j'ai vu les vertus. La même chose que j'ai vu chez les Inuits. Mais là, je possédais très simplement la langue chez les Inuits. Mais là, c'était ma langue. Puis là, je retrouvais mes camionneurs des raffineries. Puis dans mes livres, je parle beaucoup des camionneurs de ma famille. Là, je retrouvais mes oncles, mon oncle Georges, tout ça. La langue, c'était des gens qui parlaient bien, avec la langue franco-nord-américaine. Ils ne parlaient pas bien correctement, ils ne parlaient pas le français de France, ou le français de ceci. Ils avaient la langue canadienne-française réelle, qui est une perte si on la perd. Ils inventaient des mots, ils étaient pleins d'expressions, ils étaient pleins de proverbes, puis c'était beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence, beaucoup de poésie. Donc, mon travail anthropologique m'a confirmé, c'est une suite, ce que je pensais quand j'étais jeune, c'est-à-dire ce monde peut être... nous sommes libres de résister à la laideur du monde. Nous sommes libres et capables de résister. Moi, si je l'ai fait dans 7 raffineries de pétrole, avec du ciment qui nous tombait sur la tête, puis que je serais supposé, selon les médecins, être mort depuis longtemps, selon les études de santé publique, parce que vous savez que même en 2019, les gens de l'Est de Montréal vivent moins longtemps de 10 ans. Et ça, c'est à Montréal. C'est pas sa planète. Imaginez-vous sa planète.
Oui, mon Dieu, il y a plein de mains levées. La personne qui est vraiment tout nette, mais que plus en rose. Hein, qui fait pointer par plein de
gens. Je m'appelle Mireille. Monsieur Bouchard, merci beaucoup. Je resterai pendue à mon lèvre, comme d'habitude, lorsque je suis à la... Je vous écoute à la radio, comme tout le monde ici, d'ailleurs. Je viens d'Haïti, d'un coin qui s'appelle Jérémy, la cité des poètes. Je fais de la poésie. Alors, j'aimerais vous demander quelque chose concernant la laideur du monde. Vous avez dit qu'on nous a caché, l'histoire ne nous a pas raconté, c'est vrai, l'histoire ne nous a pas raconté tout. Il n'y a pas beaucoup parmi vous, j'espère qu'ils savent qu'en Haïti, c'était des Amérindiens et c'était pas des Noirs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici qui sont au courant de ça. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon pour perpétuer cette laideur qu'on nous cache plein de choses? Parce qu'aujourd'hui, autant, on voit beaucoup de laideur par rapport à la différence de toutes plein de choses.
Ben, en tout cas, pour ce qui est de l'histoire, c'est sûr qu'il y a une sorte d'immense... Moi, je dirais... on va faire comme ceci. L'histoire est un mensonge intentionné. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise intention. Quand on apprend l'histoire de France, quand j'étais jeune, j'avais des livres d'histoire de France en petit format poche. L'histoire de France. Et c'était bourré de paragraphes sur les gloires de la France. Puis le roi un tel a fait ci. Puis l'autre roi a fait ça. Puis l'empereur était grand, quand on sait qu'il était petit. Ceci et cela. C'est bien sûr que l'histoire de France, l'histoire nationale de France, est un immense mensonge. L'histoire d'Angleterre est encore pire. Et dans l'histoire de France, on dit que l'Angleterre, c'est un ramassis de manque de culture. On haït les Anglais. Les Anglais haïssent les Français. Tout le monde haït les Italiens. Chacun fait son histoire. En Amérique, c'est pareil. Les États-Unis d'Amérique, leur histoire, il faut vraiment être solide pour lire l'histoire des États-Unis d'Amérique écrite par des Américains. L'histoire du Canada anglais, c'est une farce. L'histoire du Canada français écrite par le clergé, c'est une farce, puisqu'on nous décrit comme étant soumis au curé dans des paroisses, on n'est jamais sorti, on est innocent, on ne connaît rien, des choses comme ceci. Bon, c'est pas faux, c'est pas vrai, c'est certainement pas vrai. Mais toute l'histoire mondiale devrait être réécrite, ça s'appelle l'histoire de l'humanité. Comme vous le dites si bien, dans notre culture populaire, personne ne se rappelle des Taïnos, de l'île originale où arrivent les Espagnols qui détruisent tout, détruisent les Indiens, qui massacrent tout le monde, mais vraiment, là, physiquement, pour le vrai, et qui vont remplacer cette population par des Africains délogés de force. Et là, on prend ça comme acquis, là, que les Haïtiens seraient là depuis 6000 ans. C'est pas vrai. Et puis tout ce qui s'est passé dans le détail, chacun pourrait revendiquer « Attention, je vais vous raconter mon histoire. » Alors ça va pour des peuples, ça va pour des individus. Chaque individu est une histoire. Ça, on le dit là, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, « Faites attention quand vous arrivez, puis vous dites « Ah, bonjour mon petit monsieur. » Wow, le petit monsieur, là, c'est peut-être un grand monsieur, là. On n'en sait rien. Ma petite madame, c'est peut-être une grande madame. Chacun a son histoire, triste, bonne, réussie. Or, on n'est pas fort là-dessus aujourd'hui. On vit à une époque où je ne veux pas le savoir, ton histoire. Venons-en vite au fait. Et de toute façon, on est dans le présent. Et on sera dans l'avenir. Mais le passé, on ne veut rien savoir qui vous êtes, qui je suis. On ne veut pas. Ça, c'est la partie de l'histoire, proprement dit. Pour le reste, ce n'est que justice et dignité humaine que de résister à ces forces d'amnésie. Et surtout à ces forces de stéréotypes. Parce que l'ignorance engendre, vous le savez.
Une dernière question, Madame Sylvie.
Moi, je suis originaire de Nipissing-Ouest, à l'Irée que j'habite à Saint-Lambert depuis plus d'une quarantaine d'années. Je vous remercie d'avoir réhabilité les voyageurs qui ont traversé le lac Nipissing. Et quand je suis arrivée à Saint-Lambert en 1977, on s'étonnait que je parle français. Alors, je vous remercie d'avoir raconté les histoires des explorateurs qui ont dépassé les frontières du Québec pour se rendre à l'Ontario et plus loin, parce que ça nous donne... je parle dans mon ancienne nature... qui était canadienne-française et non pas franco-ontarienne, parce que ces noms-là aussi ont été créés en 1965 à peu près. vous donner une légitimité à une présence francophone partout en Amérique du Nord. Merci.
Oui, merci. C'est très vrai ce que vous dites, d'ailleurs. C'est des hauts lieux. L'Épicing, c'est des hauts lieux de l'histoire du Canada. Ce n'est pas des places régionales, ce n'est pas des places marginales. C'est des hauts lieux. C'était l'autoroute.
Oui, voilà.
Et c'est là aussi qu'étaient les Algonquins et l'Épicing, qu'on appelait les sorciers. Et que les Algonquins eux-mêmes disaient aux Français, vous ne pourrez pas traverser le lac Nipissing. Parce que c'est des sorciers. Ils vont vous faire mourir sur le lac. Et il a fallu vaincre cette peur des sorciers d'Épicing pour pouvoir traverser, pour aller sur la route vers le lac Huron, vers les Hurons, et vers toute l'Amérique. Parce que, il faut s'en rappeler, aujourd'hui je sais que ça n'existe plus, ce que je veux dire. À cause des GPS, à cause du tourisme international, je ne sais pas trop, à cause des avions, à cause... Ces gens-là partaient à canot de la Chine. Ils remontaient l'Outaouais. Déjà, je dirais ça à un jeune Outaouais. J'ai un avion qui se rend là. Il montait chez vous. Il s'en allait ensuite au lac Huron. Et là, au bout du lac Huron, il arrivait à un endroit qui est un haut lieu historique de l'Amérique du Nord, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est Sault-Sainte-Marie. Là où le lac supérieur touche au lac Huron. Sault-Sainte-Marie. Sault, ça veut dire rapide. Comme le saut Saint-Louis, les rapides de la Chine. Saut Sainte-Marie, c'est le plus gros saut qu'on ne peut pas imaginer. Un lac supérieur qui tombe dans le lac Huron. Ça, c'est un moyen saut. C'est plein de rapides. Là, les voyageurs se réunissaient à Saut Sainte-Marie. C'était francophone. Et puis, ça s'appelle d'ailleurs Saut Sainte-Marie. Ça ne s'appelle pas Windsor Passage. Et il y avait le choix d'aller vers le sud à partir de Sault-Sainte-Marie. S'il allait vers le sud, il s'en allait à Mackinac. Sault-Sainte-Marie, d'ailleurs, ça s'appelait Michilimackinac. Mackinac, ça veut dire tortue. Vous voyez, quand vous commencez là-dedans, ça déboule. Mackinac, ça veut dire tortue. Quand j'étais petit, ma mère me disait, n'oublie pas de mettre ton Mackinac.
Oui, c'est vrai.
Mackinac. C'était le dos de tortue, c'était un petit manteau là, qui est bombé derrière, là, puis ton Mackinac. Pourquoi tu disais ça, maman? C'est de l'algonquin pur, ça veut dire tortue. Michilimackinac, ça veut dire grosse méchante tortue. Sault-Sainte-Marie. Sault-Sainte-Marie, tu peux t'en aller à Mackinac. Si tu vas à Mackinac, tu vas t'en aller au Michigan. Tu vas te retrouver dans l'endroit que les Français vont fonder une ville qui s'appelle Détroit. Détroit, c'est une ville fondée par Québec. Québec veut dire en vieil algonquin Détroit. C'est quand même fait. C'est fabuleux. Quand tu te mets à répondre, puis là, tu vois Détroit, c'est en français. Détroit, c'est pas Detroit, c'est Détroit. L'adaptation anglaise américaine va être Detroit. L'adaptation française parisienne en post-synchronisation va être Detroit. Mais pas vrai. Pas vrai, parce que les gens, on ne connaît pas l'histoire. C'est Détroit, c'est français. De Détroit, on peut aller par l'autre bout du lac, on peut tourner par l'autre bout du lac, on va s'en aller à ce qu'on appelle la baie verte. Ça s'appelle Green Bay aujourd'hui. À un endroit qui va s'appeler en français Milouaki. Milou, comme le chien Milou, Aki, le pays de Milou. Parce qu'Aki, ça veut dire pays. Comme Maniwaki, le pays de Marie. Mani, Marie. Et là, on arrive à la baie des Puants. Et on va qui se dit, la baie des Puants, qui se dit en algonquin, Winnebago. Tout est lié. Et on va descendre comme ça, on va arriver à Portage, Chicago. Chicago, qui est une ville fondée par les francophones et les Haïtiens. La réunion des Canadiens français de Montréal avec les Haïtiens via le Mississippi et la Louisiane. Parce qu'il y avait des esclaves haïtiens en Louisiane et le long du Mississippi. Et quand il est arrivé à Saint-Louis, il rencontrait les Canadiens français et il a dénommé Dandenault de Trois-Rivières qui a marié une Haïtienne dont on n'a pas eu le nom, qui a été, qui est devenu libre et puis qui a eu un enfant, qu'ils ont appelé Jean-Baptiste, c'était des catholiques. Ils l'ont appelé Jean-Baptiste, et Dandenault avait changé son nom pour Pointe du Sable. Alors, Jean-Baptiste Pointe du Sable. Et cet homme, qui était un colosse, qui était mi-Canadien-Français, mi-Haïtien, il s'est installé à Portage, Chicago, et il a construit un immense poste de traite avec un dénommé M. Beaubien de Montréal et un M. Viau de Montréal. La rue Viau et la rue Beaubien. Bon, tu ne s'en viens pas. Ils ont fondé Chicago. Et Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est un symbole aux États-Unis d'Amérique. Quand Obama a été élu, le journaliste de CBS a fait son reportage en disant « Moment historique, un noir est devenu président des États-Unis. Grand moment, il était à Chicago. » Chicago, c'est là l'endroit où travaillait et vivait Obama. Et il est devant une façade, puis il est en train de faire son reportage. Puis j'étais avec Marie-Christine, on regardait la télévision. Puis on voit derrière lui, c'est écrit Jean-Baptiste Pointe-du-Sable Museum. C'est le fondateur de Chicago. Et c'est le musée des Noirs américains. Il s'appelle Jean-Baptiste Pointe-du-Sable Museum. Qui sait que Chicago a été fondé par Jean-Baptiste Pointe-du-Sable? Personne. Qui sait que Chicago... D'autres belles curiosités. Vous voyez, la ville de Détroit, c'est français. Ça s'appelle en français Détroit, le rétrécissement des eaux. Chicago, ça veut dire quoi?
Moufette.
Ben oui. Et en quelle langue? C'est en algonquin, ça veut dire moufette. Moufette! Tel que tel. Chicago. Moufette. C'est beau pour le nom d'une ville aujourd'hui, Chicago. C'est beaucoup plus beau que New York. Pensez à New York. C'est-tu assez insignifiant, une place New York? Il y a déjà un York. T'en as pas un New. New York. T'aurais pas inventé Bob Pin, là. Mais gardez Chicago, c'est une quelle belle décision. Alors, vous pouvez, je vais arrêter ici, mais vous pouvez faire le tour de l'Amérique en parlant. Je l'ai fait avec mon fils, une fois. Il devait avoir 12 ans. Je l'ai pris, puis je l'ai mis dans un véhicule, tout seul avec lui, puis je suis parti de Montréal, je suis allé à Los Angeles. J'ai commencé à parler à Montréal, puis j'ai fini à Los Angeles. Non, mais je veux dire, il était au courant. Justement, parce qu'on était à Chicago, j'ai conté l'histoire. On était au Minnesota, j'ai conté l'histoire du Minnesota. Il n'y a pas rien de plus français que le Minnesota. L'État du Wisconsin, c'est francophone. C'est les sources du Mississippi, découvertes par Joliette et le père Marquette, à cause des Indiens. C'est toujours des Indiens. Voilà le mensonge de l'histoire. C'est toujours les Indiens qui dirigent Joliette, qui lui va reconnaître que c'est les Indiens. Et donc, une sorte de communauté des humains dans la construction du monde. Et c'est ça qu'on nie dans l'histoire, où on va vous dire, c'est monsieur un tel, c'est le colonel un tel, c'est le ci, puis c'est le ça. C'est faux, c'est tous, souvent c'est des malades, ces gens-là. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, là, tu sais. On ne viendra pas me dire que Staline, c'était un équilibré mental. C'est pas vrai. Ça. Alors, c'est le monde qui fait le monde. C'est pas des gens inventés. Mais au Canada, c'est pareil. C'est pas vrai que c'est Johnny McDonald qui a fait le Canada. Johnny McDonald, c'est quelqu'un que vous ne voulez pas fréquenter. Vous ne prenez pas un café avec cet homme-là, ni rien. Puis vous ne le mettez pas sur les billes de 10 piastres. Épouvantable. C'est le monde ordinaire qui a fait les choses. Ils sont mariés, se sont mêlés, ils ont fait des enfants, ils ont des intérêts communs, ils ont construit, ils ont exploré, ils ont travaillé surtout. Parce que c'est pas rien, là, pour finir là-dessus. Partir, quand tu pars de la Chine, tu t'en vas en Oregon. Ils l'ont fait pour vrai. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu mes mammouths laineux. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 15 ans, 16 ans, a déjà été en Floride 8 fois, a déjà été en Europe 10 fois. Quand sa mère n'est pas en Europe, séparée, puis que l'autre, cours pour les enfants intercontinentaux. Ça va en Thaïlande. Ça va comme ça. Nous autres, à notre époque, monter dans un avion, il n'y a pas... Mon père n'a jamais monté dans un avion. Jamais de sa vie. Puis moi, j'ai monté, j'avais 20 ans, puis c'était dans les DC-3 des ailes du Nord, dans le Nord. J'ai trouvé ça drôle, le lever dans les airs. Aujourd'hui, les enfants, ils s'en foutent. Ils ne regardent même pas l'appareil. Ils ne savent même pas qu'il est dans un Airbus ou un Boeing 737 Max. Oui, je sais, mais c'est ça. Mais savoir qu'il y a des pilotes là-dedans. Il y a des pilotes. Comment ça marche? Il y a des pilotes en avant. Comment ça vole? C'est quoi la logistique de son? On s'en fout, on embarque là-dedans. Tu mesures les distances mondiales au nombre de films que tu vas pouvoir regarder. Deux films. Pour telle place, puis tout ça, puis le reste. Tu sais pas où tu as voyagé. Alors, c'est pas mal différent que de partir pour un voyage de 4-5 mois pour rentrer dans le centre de l'Amérique, là, aller-retour, dans l'eau, avec des canots. Pas de ceinture de sauvetage. Il n'y avait pas de casque de protection. Aujourd'hui, les gens le font, là, pour des documentaires télé, télé-réalité, partent de Montréal, ils l'ont fait d'ailleurs, il y a quelques années, pour aller à Winnipeg. Ça avait tous des casques de protection, des flotteurs, velcro. Puis ils se filmaient eux-mêmes. Là. Savez-vous que c'est quelque chose, là? Faire un sport extrême avec quelqu'un qui vous suit? Pensez toujours qu'il y a une caméra. Tu sais, quand ils vous disent, ah, je m'approche d'un jeune, c'est dur, ça va être terrible, ils vont manger. Puis... Il y a un caméraman, ça va y écouter. Alors, c'est ça. Le travail consiste à réhabiliter la réalité, la petite réalité, la grande et la petite réalité des gens normaux, ordinaires.
Merci infiniment, M. Jean. N'hésitez pas à aller le voir pour lui parler personnellement.